Monsieur Lambert, bonjour. Vous êtes maire de Rochefort-en-Yvelines. Quel est le fil rouge qui a pu vous conduire à vous investir dans votre commune ?
Le fil rouge, il a des naissances très lointaines. Je suis quelqu'un qui vient d'un milieu rural. J'ai habité très longtemps dans ma jeunesse dans la Sarthe, dans un petit village au sud du Mans. J'ai quitté ce cocon familial à l'âge de 18 ans pour venir travailler en région parisienne. Et j'ai vécu énormément longtemps en région parisienne, mais dans le milieu urbain, en fait. Ça ne me convenait pas. Au changement de millénaire, j'ai pris la décision de trouver quelque chose en milieu rural, en Île de France. Et le fil rouge qui m'a conduit, c'était justement pour retrouver l'ambiance que je connaissais, moi, des petits villages et la facilité de s'investir pour le village qui était beaucoup plus aisé que dans une grande commune urbaine où, en fait, on est confronté à tout un ensemble administratif et, ou je dirais même politique, relativement compliqué et que quand vous arrivez comme ça, si vous n'êtes pas au fait de ça, vous ne sentez pas la nécessité de vous y investir. Donc, quand je suis arrivé sur Rochefort, en fait, je n'avais pas du tout d'ambition municipale. Je me suis investi dans le comité des fêtes de Rochefort-en-Yvelines. Fil en aiguille, vu mon implication, j'ai fini par être le président du comité des fêtes. C'est ce qui m'a donné déjà l'opportunité de bien connaître le village, ses habitants, d'être à l'écoute par rapport à je dirais, ce qu'ils voulaient en termes d'animation sur le village. Quand vous faites ça, l'équipe municipale en place vous identifie et qui fait que les élections d'après, quand on cherche à composer l'équipe municipale, eh bien, on vient vous démarcher, vous proposer d'en faire partie. Donc,
bien
c'est
sûr.
Comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier en 2008 dans une équipe municipale qui avait été composée par Georges en fait. Alors, j'avais dit que j'étais intéressé, mais à partir du moment que c'était pas pour faire de la figuration. Donc, il m'a confié rapidement la gestion de l'assainissement. Donc, j'ai commencé effectivement en tant que président d'un syndicat intercommunal, en plus d'être conseiller. Au cours du mandat, un des adjoints s'est retiré. Monsieur Georges Bénizet m'a sollicité pour reprendre ce poste d'adjoint. Ça fait que, à ce moment-là, je suis devenu conseiller communautaire. Ça m'a permis d'élargir mes chakras, quoi, en quelque sorte, et de me rendre compte aussi toute l'implication que ça pouvait d'être maire, en fait, puisque on commençait à avoir toutes les interactions avec les autres organismes. En fait, ou les autres collectivités territoriales. En 2014, Georges Bénézé décide de passer la main et il est venu me voir en me disant « Sylvain, je ne vois que toi pour prendre la suite ». Donc je lui en veux énormément parce qu'il ne m'a pas prévenu la hauteur de la marche en fait, qu'il y avait entre être adjoint et être maire. J'ai accepté. Est-ce que c'était une folie? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait à refaire. Je pense que je le referais parce que à la lumière de ce que ça m'a apporté, je dois dire que j'ai eu une très grande satisfaction à faire ces deux mandats. Mais comme il disait, je pense que la première chose, en fait, avant de se lancer dans ce type de mandat, il faut avoir de l'empathie. Si vous n'avez pas de l'empathie, c'est pas la peine. Mais après, j'ai découvert qu'il fallait avoir d'autres comportements humains, déjà un par rapport à soi. Le maire, c'est une fonction. Quand les personnes s'adressent à vous, il faut savoir le prendre au nom de la fonction. Est-ce qu'il vous permet de supporter, en fait, toutes les balles qu'on nous renvoie, quoi, en quelque sorte? Je pense qu'on ne se rend pas compte, à part ceux qui l'ont vécu, de tout ce qu'il faut ingurgiter. Alors, je dis pas qu'il faut avoir de la compétence, mais il y a la capacité, surtout quand vous venez du monde privé, que vous n'avez jamais été dans la fonction publique, par exemple, en fait, vous rentrez dans un autre monde. Les règles du jeu sont pas du tout les mêmes, les principes de délai, de garantie, de tout ce que vous voulez, c'est pas la même fonction. Il y a déjà l'épaisseur du code, mais il y a aussi le nombre de codes. Le code réglementaire des collectivités territoriales, mais il y a aussi le code de l'environnement, le code de la commande publique. Le périmètre à adresser est très très large. Et en plus, notre législateur aime bien, d'année en année, épaissir
le code.
En fait, je pense qu'ils ont inventé, eux, quelque chose qui est formidable, que tout mécanicien rêve, ça s'appelle la lime à épaissir.
Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que, quelles que soient les expériences des autres élus, votre remarque revient chez chacun des élus du Sud-Yvelines et des élus en général. Au-delà de la fonction, ça doit être forcément aussi une vocation, parce que, comme vous le disiez, il y a la lime à épaissir, il y a des contraintes, et vous, vous êtes en première ligne avec tout ça, pour gérer votre commune et puis pour représenter l'État.
Oui, tout à fait, et il n'y a pas de communication au plus haut niveau de l'État, ça peut paraître surprenant ce que je veux dire, mais il n'y a pas de communication au plus haut niveau de l'État, même de l'administration de l'État, entre le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, tous ces codes-là. Et en fait, à la fin, quand ça vous arrive que vous devez décliner tous ces codes sur le territoire, c'est bourré d'injonctions contradictoires.
Est-ce que les habitants de Rochefort comprennent un peu la position que vous êtes obligé d'avoir, l'élu, mais également cette disponibilité et aussi ce besoin et également de se protéger un petit peu?
Vous m'auriez posé la question en 2019, je vous aurais répondu oui. Les administrés ont conscience que le rôle n'est pas si facile, qu'il n'est pas si aisé, qu'on est confronté à des implications. Et il y avait aussi une écoute, c'est-à-dire qu'on était capable d'expliquer. Puis il y a eu 2020, il y a eu le Covid et il y a l'après-Covid. Et depuis l'après-Covid, les gens, globalement, se sont refermés sur eux-mêmes. Et que là, vous avez beau expliquer tout ce que vous voulez, pour eux, vous leur affirmez des choses qui ne sont pas vraies. Ils ont leurs croyances et ils n'en démordent pas. Ils sont consommateurs et non citoyens. On ne se préoccupe pas de ce que ça engendre chez l'autre. Et moi, quand je reçois des fois les administrés, je leur dis, mais j'ai imaginé que votre voisin demande exactement la même chose. Et vous avez beau dire ça, ils restent sur leur posture. Moi, ça m'a m'inquiète pour la suite, parce que une des qualités qu'il faut avoir aussi en tant que maire, c'est savoir faire passer l'intérêt du collectif avant l'intérêt personnel, je dirais, de nos concitoyens. Il faut d'abord penser intérêt collectif. Et là, j'ai quelques inquiétudes, en fait. Où est-ce qu'on va trouver des gens, maintenant, aujourd'hui, qui ont cet intérêt du collectif ?
Rochefort en Yvelines, vous avez la chance d'être dans le plus beau village de France. Qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement à Rochefort ?
En fait, c'est sa richesse de son patrimoine, qui est à la fois naturel et, je dirais, mobilier. On a la chance d'avoir une église du 11e siècle, un cimetière qui est accroché au flanc de cette église, les ruines du château Guy le Rouge au-dessus, une histoire aussi très riche à Rochefort par les personnes qui y ont vécu. On a quand même Guy le Rouge, sa fille qui a failli devenir reine de France avec un mariage qui n'a pas eu lieu avec Louis le Gros. On a toute l'histoire des Rohan. On a un bailliage. Avant, c'était là qu'était rendue la justice du roi. Moi, c'est vraiment ce village qui mélange à la fois le milieu naturel et, je dirais, le milieu patrimoine historique qui m'a plu énormément. Son ancienne gare, il y a une histoire très très riche et un patrimoine qui est exceptionnel.
J'en reviens justement à l'aspect que vous évoquiez avant de je vous ai posé cette question. Si vous aviez une personne qui venait vous voir et qui voulait s'investir dans la vie municipale, quel conseil lui donneriez-vous ?
J'essaie de mesurer, c'est comment sa relation avec les autres. Je lui demanderais déjà si elle a déjà exercé un mandat d'élu, si elle a déjà, dans ce mandat d'élu, porté des délégations ou des responsabilités, si elle a bien mesuré la lourdeur administrative, en fait. On est maire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même si on arrive à déléguer de temps en temps en disant que si je ne suis pas joignable, vous avez le numéro de téléphone suivant, etc. Quand je pars en vacances ou que je pars même en villégiature pour quelques jours ou quand je m'absente de la commune, j'ai toujours le téléphone, toujours l'ordinateur. Parce qu'on attend des fois beaucoup de choses du maire. Et puis la délégation, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps bien. Quand il faut appuyer sur le bouton, des fois, ça peut paraître compliqué pour certaines personnes.
On se sent seul, parfois, quand on est maire ?
Se sentir seul, non, pour moi, personnellement. Bon, après, vous savez que je suis président des maires ruraux des Yvelines. Pour justement ne pas me sentir seul, justement pour ne pas être confronté à ça, je me suis construit un réseau de collègues. Et qu'on a toujours un collègue qui a été confronté au problème que vous avez. Donc, si à un moment donné, vous vous sentez seul parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, on peut consulter ce collège de collègues et leur demander, tu n'as pas été confronté à ça ? Et comment tu as fait, et est-ce que tu as été satisfaite de ce que tu as fait, en quelque sorte, est-ce qu'il y a eu le bon répondant, ou tu aurais dit, non, j'aurais peut-être dû faire autrement, voilà. Je dis, oui, on peut se sentir seul, mais il faut à ce moment-là avoir des amis à côté. Okay. Et les amis à côté, c'est pas forcément les élus de votre territoire, moi, les élus de votre conseil. Parce que généralement, si vous vous sentez seul, ça veut dire que vous n'avez pas su vous tourner vers eux. Donc, il faut savoir aussi, des fois, aller chercher les réponses ailleurs. D'accord. Après, on a aussi, sur le territoire, maintenant, je dirais, un préfet, des sous-préfets qui sont très à l'écoute du monde rural et qui facilite aussi ce fait de ne pas se retrouver seul.
Je vous propose de vous projeter dans 25 à 30 ans. Quelle première image vous vient à l'esprit de votre commune ?
Alors, je l'imagine que les graines que j'aurais semées sont devenues adultes. Même un mandat, même deux mandats, vous semez beaucoup et vous récoltez très peu. Le temps administratif, le temps communal est très long. Donc moi, ce que j'aimerais pouvoir, c'est effectivement, quand je regarderai Rochefort dans 20 ans, c'est de voir que les graines qui ont été semées ont pris tout leur essor et ont apporté les services pour lesquels elles ont été semées.
Vous la voyez différente de celle qui existe aujourd'hui ?
Oui, je la vois un peu différente par rapport à la mixité générationnelle. Dans nos villages ruraux, il faut arriver à faire du renouvellement de bâti pour justement permettre à des nouveaux arrivants de pouvoir s'installer sur Rochefort. Donc, je vois une petite urbanisation raisonnée. De toute façon, on a 900 habitants, on ne va pas passer à 2000. Ce n'est pas ça l'objectif. On est plus sur faciliter le renouvellement générationnel. Par ce biais-là, avoir retrouvé la quatrième classe. Et puis, les services que j'ai semés soient toujours en fonction. Et bien sûr, que ce que d'autres auront semé derrière suivent le même esprit, quoi, en quelque sorte. Je pense que c'est pas parce qu'on a soi-disant un patrimoine historique, etc., qu'il faut pas prendre pour un carcan. C'est une valeur. Je voudrais pas que le village redevienne un village dortoir. Je me suis battu pour que ce qu'on appelle la ligne 78-10 passe dans Rochefort pour justement permettre une mobilité aisée pour venir, pour partir, mais aussi pour les administrer, pour qu'ils puissent circuler sans prendre leur voiture, pour rayonner sur le territoire. Et je pense qu'on doit pouvoir construire autour de ça.
Monsieur Lambert, en tout cas, merci de nous avoir accordé quelques minutes. On vous dit à bientôt. Et puis,
à bientôt.
On parlera bien sûr de Rochefort en Yvelines, avec plaisir. Merci beaucoup.